Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tu peux gagner gros. Rate pas ta chance.
C'est meilleur qu'avec Loto-Québec.
Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet bingo au 969fm.ca. L'alternative radio.
CJMD, là où les rappers puis les fans de métal rock et chill tour à tour.
La radio de Lévis.
96.9.
L'alternative radiophonique.
96.9.
L'alternative radio.
Riding in my car. And I'm listening to the radio.
The alternative radio station. 96.9.
5, 4, 3, 2, 1. Are you ready?
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin, courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à notre cinquième saison de La Bulle immobilière. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. J'ai l'honneur d'animer une émission de radio spécialisée sur l'immobilier avec un acolyte. Salut Kevin.
Salut Jeff, ça va?
Ben oui, ça va bien. Comment que ça va? Comment que ça s'est passé ton été?
Écoute, ça a-tu brassé des derniers mois? Si tu passais quelque chose?
Ah, ben ouais, mais hein?
Ah, ça a brassé.
Puis toi aussi, au niveau personnel, ça a brassé
ouais,
pas mal.
Oui, hein? Ouais, à part le COVID, moi, dans tous ces questionnements et réflexions que tout le monde a eu, j'ai eu un changement d'environnement de vie, de maison, que j'ai effectivement vendu la mienne et acheté une autre avec Jeff. On fait toujours affaire avec le meilleur.
Ben ouais, Cliff, je te remercie pour la belle pub placée ouais, comme ça. Là.
C'est ça.
Mais une des choses qui est vraiment cool sur la nouvelle propriété que tu as achetée, c'est une méga piscine.
Yes.
Puis une des choses qu'on avait parlé, je pense, par rapport aux visites, tu me dis, ouais, toi, Jeff, tu sais-tu comment ça marche? Je suis comme, écoute, pas vraiment.
Pas tant. Ouais. Moi, je ne savais vraiment pas non plus.
Fait que, tu sais, juste avant de débuter, je tiens à remercier notre commanditaire pour la saison 2021, qui est Copy Management avec Kevin Pépin. On avait déjà pré-entamé à faire des enregistrements avec lui. Fait que maintenant, on va avoir un sponsor pour toute l'année. Fait que c'est pas seulement juste pour la saison d'automne, mais pour toute l'année. Un gros shout-out, qu'ils disent, dans le hip-hop. Fait qu'on va faire pareil. Puis à notre émission aujourd'hui, on va parler de piscine avec Émile Doré-Parent, président propriétaire de Piscine H2O. Pro, non, H2 Pro.
H2 Pro.
Comment ça va?
Ça va bien. Merci les boys de m'avoir avec vous aujourd'hui.
Merci d'être venu.
On trouve ça le fun d'avoir des gens qui sont passionnés, qui ont parti un peu de rien, puis qui se sont essayés dans l'entrepreneuriat, puis arrivent avec des succès monstres. Puis on trouve ça le fun que tu prennes du temps en fin de saison, parce que ça devient des périodes très achalandées pour vous autres aussi. Puis, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de toi, de où que ça a débuté, ça, Piscine H2 Pro.
Ben, premièrement, ça a commencé quand j'étais à l'université, là, une dizaine d'années, donc environ, ça fait 9 ans exactement que j'ai commencé ça, comme un projet d'étude, je dirais, avec un de mes amis, que lui avait débuté ce genre de petit service-là, là, ce service aux propriétés, vraiment plus du service, je vous dirais, personnalisé, aller nettoyer les piscines, aller ouvrir les piscines, fermer les piscines, et non pas l'installation ni les réparations à ce moment-là. Puis il nous a dit, tu sais, je pense qu'il y aura un marché pour vous à Québec. Donc, ça vous tente-tu de faire ça? Donc, on a pris mon ami et moi nos clics puis nos claques, comme on dit. On est allé cogner aux portes. Ouais. On est allé cogner aux portes dans notre quartier à Cap-Rouge. On a commencé ça tranquillement avec très peu de clients. 25 clients, je dirais, la première année. On savait pas trop ce qu'on faisait. On nettoyait des piscines. Donc, tu sais, pour vous qui savez pas trop comment... c'est ça. Ça prend pas un cours classique, mais il y a beaucoup de spécificités qu'on a appris, je vous dirais, sur le tas. Puis de fil en aiguille, à chaque année, nos clients revenaient parce que c'est un marché qui était pas nécessairement... pas exploité, mais c'est un marché qui était mal exploité. Donc, les grosses entreprises de piscines se concentraient plus sur la vente de piscines, sur les réparations, mais tout ce qui était service, je vous dirais, plus personnalisable, comme les entretiens à chaque semaine, un petit peu comme un concierge là, des maisons ou bien un entretien ménager à la maison. Ça n'existait pas beaucoup. C'était plus une personne qui faisait ça, un voisin qui faisait ça, un jeune. Donc, nous, on l'a un peu développé, ce concept-là. Puis ça a donné ce que ça a donné présentement. Là, à chaque année, on a doublé, je vous dirais, la clientèle. On a développé notre offre de service aussi. Là, au début, on faisait juste vraiment du service qui nécessitait pas trop d'expertise. Puis après ça, on est allé chercher des ressources, des employés, des gars qui avaient de l'expérience. Là, tu sais, je veux dire, jusqu'à un certain point, ça te prend...
une expertise.
C'est ça. Ça prend une expertise. Puis tu sais, on est allé chercher des gars qui avaient 20, 25 ans d'expérience dans tout ce qui était... réparation de piscine, changement de toile de piscine, des travaux qui nécessitent justement cette expertise-là. Puis aussi, on a développé, je vous dirais, dans différentes régions. Donc, à Lévis, on a une succursale. On n'est plus juste à Québec. On en a trois à Montréal aussi pour développer le marché, puisqu'on s'est dit qu'effectivement, c'est un marché que si les gens à Québec en ont besoin, ils vont en avoir besoin un peu partout là, au Québec.
Puis l'entreprise, elle a été mise en place en quelle année?
Dans le fond, on a débuté en 2012, été 2012. Donc, l'été prochain, ça va être le 10e été. Ça va faire 9 ans. Puis, ça a été... tu sais, au début, c'était une société. On était deux personnes. On n'était pas encore incorporés. Ça a été incorporé en 2014. Au départ, ça s'appelait Piscine Serein, la première année, quand j'étais avec mon ami de la Beauce. Ensuite, ça s'est appelé Aquapro. Puis, quand on a décidé de développer vraiment le concept de franchiseur avec des franchises, on a décidé d'appeler ça H2 Pro parce que on voulait quelque chose qui existait à nulle part. Aquapro, ça existait à Gatineau. Puis, dans nos esprits, on voulait se rendre là dans les prochaines années. Donc, on voulait pas avoir déjà de problème. Si on veut de copyright, donc on a trouvé H2 Pro, on a pensé à ça. On s'est dit aussi qu'on voulait avoir des couleurs qui étaient différentes de toutes les compagnies de piscine, donc c'est pour ça qu'on a opté pour le orange et le bleu. Là, ouais. Je vous dirais qu'il n'y a pas grand compagnie de piscine qui ne sont pas bleues, donc on voulait se différencier de cette manière-là. Puis maintenant, on est rendu où on est rendu.
Puis c'est-tu, dans le fond, c'est-tu ta première expérience mettons, entrepreneuriale? Tu dis, est-ce que c'était ça ton background ou ta formation à l'université? C'était en administration?
Ouais, ou c'est ça, exactement.
Quand tu étais jeune, dans ta famille? Ou?
Ben, je vous dirais que j'ai une famille, si on veut, d'entrepreneurs, là, du côté de mon père. Là, lui aussi était dans le... En fait, il avait sa propre compagnie, justement, à la radio. Après ça...
Fait que toi, t'es un pro, là, aujourd'hui.
j'ai ça dans le sang, mettons. Puis mes oncles aussi, qui ont chacun leurs entreprises. Donc, on peut dire que oui, ça vient de ça. Mais moi, principalement, ma force, c'était la communication. J'étais au cégep, donc je voulais pas aller dans quelque chose que j'avais déjà une certaine facilité, puis c'était les chiffres qui étaient un peu mon talon d'Achille, si on veut. J'ai décidé d'aller en administration pour développer cette expertise-là, puis j'ai vraiment tombé en amour avec le monde des affaires. J'ai vraiment tombé en amour avec le monde des affaires, puis avec tout ce qui l'entourait, puis je savais pas... Tu sais, c'est une chose que... pas que je déplore, mais je pense qu'on pourrait beaucoup plus apprendre aux jeunes c'est quoi l'administration. Tu sais, bien souvent, on entend... Moi, j'entendais ça, en tout cas, quand j'étais au secondaire, tu sais, je sais pas quoi faire, je vais dans l'administration, t'es comme si c'était comme un fourre-tout. Mais c'est ça, tu sais pas ce que tu veux faire en allant là-dedans, alors que, tu sais, il y a beaucoup de débouchés intéressants, puis, tu sais, il faudrait mettre plus de l'avant à ça, tu sais, c'est pas parce que t'es pas médecin, t'es pas avocat, puis t'es pas ingénieur que tu peux rien faire. Donc, pour répondre à ta question, je l'avais, si on veut, en dedans de moi, mais j'ai découvert à l'université, puis... Oui, c'était ma première expérience, puis ça sera certainement pas ma dernière.
Non, effectivement, puis le point que tu dis là, je pense que le spotlight est de plus en plus sur l'entrepreneuriat dans les dernières années. Fait que oui, effectivement, ça va sûrement aider à que ça soit pas juste un ramassier en administration.
Non, c'est ça.
Il y a pas juste la comptabilité, il y a pas juste la finance, il y a toute la...
Tu peux développer, c'est sûr, en affaires, puis il y a beaucoup de gens, tu sais, j'ai l'impression qui se démarre en affaires sans nécessairement être à l'université aussi, parce que c'est pas fait pour eux, mais il y aurait moyen, tu sais, si on les... Quand t'es punk, quand ils sont jeunes, puis tu dis, tu sais...
Ah, définitivement, puis les parcours entrepreneuriales, c'est des parcours super formateurs, là, parce que, tu sais, on est souvent des passionnés, on fonce la tête baissée sans savoir c'est quoi les conséquences. Ça, c'est la première chose. Puis après ça, ben tu vis avec les conséquences que tu as créées. Puis là, tu fais comme, oh, palin, ça fonctionne comme ça. Fait qu'on va coordonner notre patente par rapport à ça. Oh, palin, ça va comme ça, on va le coordonner. Fait que ça fait réellement évoluer beaucoup plus vite, selon moi, que de lire dans des livres puis de mettre en application aussi. Là,
c'est le mix des deux, mais comme toi, partir jeune aussi, on dit souvent, jeune, t'as rien à perdre.
Ben j'avais littéralement rien à perdre, tu sais. Non, j'avais rien là. Non, j'habitais chez mes parents, tu sais, c'est une chance que j'avais, puis j'avais, tu sais, je prenais mon char, puis je prenais les équipements des clients,
tu sais,
c'est juste du temps. Donc tu sais, au final, tu peux pas vraiment te planter à part perdre du temps, mais je veux dire, quand t'es jeune, c'est pas, tu vois pas ça de la même manière que maintenant.
Moi, c'est ça. Exactement. À cet âge-là, ton temps vaut pas de l'argent, tu sais, c'est comme, c'est encore correct là. Puis une des choses que j'ai trouvé vraiment le fun dans le parcours, c'est que vous êtes associé avec le groupe Verdure pour développer un plan de franchise, pour devenir maître franchiseur. Fait que ça, c'est quand même un gros défi. Puis c'est quelque chose que vous êtes en train de justement de mettre en place. Ça ne doit pas être évident de devenir maître franchiseur dans un domaine comme ça, ou même juste devenir maître franchiseur.
Ben, c'est sûr que ça l'amène, mettons, son lot de défis. Puis on est encore en train de peaufiner, tu sais, la manière de faire. Là, on n'est pas dans un domaine, comme je disais au départ, qui était où les sentiers étaient battus. Là, on est tout en train de défricher. On invente un modèle parce que ça reste du service. Donc, mais ça reste quelque chose qu'il faut qu'on améliore à chaque année. Puis il y a beaucoup de gens qui me demandent, qu'est-ce que tu fais l'hiver? T'es-tu 3 mois en vacances? Nous autres, tout ce qu'on fait, c'est... non, mais tu sais, on s'améliore. On améliore nos processus. On améliore nos procédures. Puis on essaie vraiment d'optimiser puis de rentabiliser toutes nos franchises parce que t'as pas les mêmes enjeux. Puis... si on veut, le défi qu'on a à chaque année, c'est qu'on n'a pas encore de succursale à maturité. Donc, Québec, on est toujours en croissance. Donc, je peux pas vous dire c'est quoi le plateau à atteindre. Puis à partir de là, c'est quoi les ratios, c'est quoi les chiffres. Donc, on est toujours en train de naviguer avec ça, avec des succursales qui démarrent un peu partout au Québec. Donc, on veut vraiment assurer que tout le monde va bien, mais en même temps, on veut améliorer. Donc, tu sais, effectivement, il y a beaucoup de défis, mais c'est très motivant et c'est très gratifiant.
Il y a des ratios, il y a des benchmarks qu'il faut que tu établisses pour dire à un franchisé, tu sais, voici ce que peut être deuxième, tes 5 premières années, mais toi-même, tu es un peu dans cette progression-là.
Tu as tout compris. Tu sais, je peux pas dire encore exactement à tel nombre de clients tu es censé faire tel nombre de services. Tu sais, moi, je le sais combien j'en fais, mais à chaque année, il y a une augmentation. Puis, tu sais, on en reparlera plus tard, mais avec la pandémie qu'on a eue cette année, mais ça l'a encore plus augmenté.
Fait les prochaines années vont suivre parce que là, il va y avoir de l'entretien qui va venir avec ça. Là.
C'est exactement. Fait que c'est toujours un travail continu. Puis je pense que n'importe quel entrepreneur vit ça. Là, à moins que tes affaires vont bien, tu peux décider de prendre ça un peu plus relax. Mais je pense que c'est ton devoir si tu veux performer puis tu veux continuer que ça aille bien, de jamais t'arrêter de dire qu'est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire. Puis c'est vraiment dans cette mentalité-là que mon associé et moi, on travaille à tous les jours.
Tu sais, je pense qu'un des défis importants en devenant maître franchiseur, c'est que les gens veulent s'associer à vous pour deux choses. Tu sais, l'image de marque que vous avez, la notoriété que vous avez, mais aussi parce que vous avez ces deux éléments-là, la clientèle va venir directement à vous. Fait que tu sais, ça, c'est quand même important parce que vous devez livrer un certain flot de clients qui vient justement avec la franchise. Là, on veut
l'expertise
pas...
aussi.
Ben c'est ça. C'est d'une part l'image de marque, d'autre part les procédures, comment tu fonctionnes, puis aussi la clientèle. Puis c'est pour ça aussi qu'on est allé s'associer avec les Jean Tremblay puis Yves Gobeil du groupe Verdure à la base, parce qu'eux autres, ils avaient l'expérience d'un maître franchiseur. Puis les modèles d'affaires s'apparentaient à certains égards. Tous les gens en fait ont des terrains. Pas tout le monde qui a des piscines. Puis c'est plus simple, par exemple, ensemencer un terrain que entretenir une piscine, parce que je veux dire, il y a beaucoup d'imports d'érable dans une piscine. Il y a différents types de filtreurs, différentes pompes, différentes grosseurs, différents systèmes de désinfection. Tu sais, il y a plus de complexité que du gazon, puis je dis pas que c'est très simple.
Mais je te garantis que j'ai déjà réussi à brûler un gazon où ce que je me suis fié à la météo, il a jamais mouillé, mon gazon brûlé.
Ah, c'est ça, on est capable.
C'est au début de cet été, c'est
pour du monde. Ah, puis il y a du monde qui sont capables d'échapper leur piscine aussi, ça je te le garantis.
Ouais. Mais c'était déjà dans vos plans d'aller vers des franchises, dans le sens qu'il y a depuis plusieurs années, c'est pas cette rencontre-là avec
ben, en fait, c'est ça. Nous, on voulait développer le concept de franchise ou aller dans d'autres régions. On avait beaucoup la croissance en tête parce qu'on voyait le potentiel qu'il y avait. Fait que moi, je suis allé voir Jean Tremblay. J'ai dit, ça t'intéresse-tu de nous aider? Puis lui, il a tout de suite embarqué. Puis il a dit, ben oui, moi, T'sais, c'est un homme très avant-gardiste, si on veut. Puis lui, c'est un entrepreneur dans l'âme. Fait que les projets, il en prend. Puis il nous a beaucoup aidé au niveau justement de la structure organisationnelle, de la structure de financière, tous ces aspects-là.
Fait que vous avez un gros backup de mentorat en arrière aussi. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà là-dedans depuis longtemps. Là.
Ça aide beaucoup. Là.
Vraiment cool. Puis au-delà d'ouvrir puis fermer une piscine, là, c'est quoi les services que vous pouvez offrir aussi?
De manière générale, tout ce qui entoure la piscine, en ce moment, on veut l'offrir. Donc, admettons, oui, on l'ouvre, oui, on la ferme, on fait le nettoyage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ouverture et nettoyage au printemps. Puis souvent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est la nettoyer. Là. Tu sais, je veux dire, c'est les compagnies, quand ils ouvrent une piscine, ils se pointent, ils partent la pompe, ils branchent les affaires, puis ils s'en vont, ils mettent un traitement choc, puis ils sont partis. Puis, tu sais, pour les gens qui sont pas nécessairement à l'aise, ben, ce qu'ils veulent, c'est avoir un nettoyage. C'est ça, c'est le nettoyage printanier qu'on appelle. Ça prend une semaine, puis on t'a met belle. Ça, c'est un service qui est très populaire. On a l'entretien hebdomadaire aussi. Donc, l'entretien 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7 fois par semaine. J'ai des endroits qu'on va à tous les jours pour entretenir.
7 fois par semaine.
Pour les piscines extérieures de copropriété, là, 7 fois par semaine, okay. On n'a pas le choix. Puis on en reparlera plus tard, là, tu sais, dans les immeubles commerciaux, c'est important aussi d'avoir une certaine rigueur. On fait les tests d'eau, on fait les tests microbiologiques qui sont obligatoires pour les copropriété. Maintenant, on fait des grosses réparations, des changements de toile, des rénovations de piscines de béton. Donc, tu sais, les anciennes piscines qui sont en revêtement de béton avec de la peinture époxy, avec des tuiles. On a des experts là-dedans qui ont fait du sandblast. On enlève la peinture, on remet ça au béton à nu, on repeinture, on refait du béton.
Remplacer des blocs marches, des choses comme
ouais,
ça.
Oui, c'est ça. On change les marches en acrylique. On fait aussi beaucoup de consultations. On commence à faire de la consultation pour les constructions neuves. Puis à Québec, on fait quelques constructions neuves de piscines creusées pour des clients privilégiés qu'on a qui nous le demandent, mais on veut pas embarquer là-dedans, là, je vous dirais, attends.
Au niveau de la business, c'est réparti, par exemple, commercial, résidentiel, à peu près quoi dans les ratios?
Je dirais 30-70. 30% commercial, 70% résidentiel.
Puis au niveau de la business, est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près 50% service puis 50% produit? Parce qu'au-delà de se présenter sur place, oui, tu dois sûrement prendre l'équipement des clients, etc. Mais souvent, les clients, quand ils vont payer un service, vont vouloir aussi l'avoir tout inclus.
Ouais.
Ou est-ce que toi, tu arrives avec ton équipement, puis tu factures, etc. Est-ce que les ratios, c'est à peu près 50-50?
C'est plus 70% service réparation, 30% pièces produits qui vont venir avec ça. Parce que puis l'avantage aussi qu'on offre aux clients qui font affaire avec nous, c'est que t'as plus besoin de te déplacer pour aller au magasin pour acheter tes produits. On fait des tests d'eau chez vous, on t'amène les produits, on te laisse là.
Fait que vous avez des laboratoires mobiles.
Exactement.
Ah, quand même cool.
Parce que vous avez aussi un magasin pour recevoir, dans le sens où on peut acheter les produits.
On a un petit magasin à Québec, okay. Mais les autres succursales n'en ont pas. Ils vont tous se déplacer, puis c'est beaucoup du juste à temps au niveau de l'approvisionnement. Donc, ce que tu as besoin, on ne l'a pas nécessairement en stock tout de suite. On le commande, puis on l'a tout de suite après. Ou c'est chez notre fournisseur. Fait qu'on essaie de ne pas trop garder un gros inventaire parce qu'il y a tellement de pièces là-dedans.
Puis de gérer aussi des inventaires, puis de soutenir des inventaires qui peuvent ne pas être nécessaires du moment où, ce que quand vous faites la commande, c'est livré rapidement. Fait que si on n'a pas tant de délais par rapport
exactement.
À ça. Peut-être, par exemple, cet été, que c'est un peu plus compliqué.
On va dire
là.
Souvent dans la saison.
Ah oh, oui, c'est pas. Dans la vie normale, à part 2020, hein, on va dire ça souvent.
Exactement.
Écoute, Émile, c'est super intéressant. Ça fait un beau topo. De qui est Piscine H2 Pro. Notre émission de radio est maintenant disponible, puis elle a toujours été disponible sur des podcasts. Fait que c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. On a aussi la disponibilité d'avoir tous nos podcasts sur notre site web. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on vient mettre les noms, les compagnies, c'est quoi les sujets qu'on a parlé. Fait que c'est quand même super. Super cool par rapport à tout ça. Si jamais vous avez des besoins d'informations ou quoi que ce soit, contactez-nous directement puis on pourra ramener des sujets des fois à l'émission. Je te remercie, on va revenir tout de suite après la pause.
Oh yeah, oh yeah! Vous écoutez CGMD 96.9.
De retour à la bulle immobilière avec Kevin et Émile Doré-Parent, propriétaire, président de Piscine H2 Pro.
Yes, Jeff, tu l'as eu.
On parle de l'univers de la piscine. Merci les gars, vous êtes tellement smart. C'est à cause que faut qu'il y ait quelqu'un qui soit cadré dans la patente. Là. Fait que
c'est moi.
Émile, il y a le confinement, le COVID-19 vient changer de beaucoup les business de toutes sortes d'entreprises. Assurément que des gens qui offrent un service de nettoyage de piscine, d'ouverture, fermeture de piscine, assurément que vous allez avoir un rush prochainement. Est-ce que ça a eu des impacts, la COVID-19, sur votre entreprise?
Ben, comme je disais précédemment, on a toujours une grosse croissance. Fait que je peux pas dire que cette année, la croissance a été plus grande à cause de la COVID, mais je vais arrêter de taper. Mais je peux vous dire que ça a eu un très bon impact. Ça a eu un gros impact aussi sur mes collègues qui vendent des piscines, qui vendent dans tout ce qui est détaillant. Ils ont eu un gros impact. Donc, c'est certain que pour nous qui faisons du service, je suis certain que dans les prochaines années, ça va avoir un impact énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'acheter des piscines, qui s'achètent des maisons, puis ils vont vouloir éventuellement, profiter de la cour. Éventuellement, malheureusement, ça va briser. Puis c'est pas parce que c'est mal fait nécessairement, mais parce qu'avec le gel dégel qu'on a ici, c'est assez difficile sur les installations de piscines. Donc, c'est certain que nous, je prévois qu'on va avoir beaucoup de demandes dans les prochaines années, mais oui, c'est sûr, tu sais, cette année, ce qu'on a eu beaucoup, c'est des manques au niveau de l'inventaire. On a manqué énormément de filtreurs, de pompes, de tout ce qui est équipement pour les piscines. Ça a été assez l'asile. Puis oui, je sais qu'il y a eu des gros line-up chez Club Piscine, chez les gros détaillants, Trévis, tout ça, là, à l'année longue, là.
Puis je dois m'avouer, là, on a fait partie de ces clients-là parce qu'on était supposé aller à Walt Disney cet été, puis notre voyage a été mis sur la glace. On a décidé de transposer notre budget vacances pour avoir une nouvelle piscine dans le cours. Malheureusement, j'habite sur un coin de rue, fait que je suis en processus de dérogation mineure, mais les délais étaient quand même très longs. Puis les délais doivent être encore très longs parce que les détaillants, ils ont eu sûrement un boost de vente dans les dernières années. T'as-tu une idée un peu?
Ouais, ben hier, justement, je parlais avec mon collègue qui construit mes piscines. Puis lui, il me disait que déjà pour l'année prochaine, nous, on en a déjà deux avec lui. Mais lui, de son côté, il est déjà rendu à la fin du mois de juin. Au niveau de la construction de piscines neuves. Puis je sais que chez Trévis, chez Club Piscine, où ils vendent beaucoup de piscines hors terre, sont déjà rendus à la fin juillet pour les installations de piscines hors terre l'année prochaine. Donc c'est,
ça
c'est...
doit pas être typique là, de booker.
Non, vraiment pas.
Au niveau pourcentage de vente, as-tu une idée de ce que ça peut représenter?
Tu parles au niveau de leur 300, vente?
De leur vente à eux, oui.
Ben, je sais qu'il y avait un article dans le journal la semaine dernière ou l'autre d'avant que les permis de construction de piscines creusées ont augmenté d'à peu près 75% à Québec, 43% à Montréal. Donc, c'est débile. T'sais. Puis en temps normal, on sait qu'ils construisent 20-25 000 piscines par année au Québec. On est l'endroit, tu sais, en Amérique du Nord où il y a le plus de piscines par habitant avec 16 piscines par habitant. Puis en Floride, c'est 12, là. Tu sais, ça vous donne une idée, là. Fait qu'on est.
On est quand même intense, là.
On est vraiment intense sur les piscines.
16 piscines chacun, c'est ça que tu me dis.
En fait, non, 16 piscines par 100 000 habitants, je pense. Fait qu'admettons, hier, je regardais les statistiques. Puis en 2016, il y avait, si je me trompe pas, 100 000 piscines creusées puis 300 000 piscines hors terre au Québec ou 150 000 puis 400 000. Mais au total, c'est à peu près 600 000. Dis-toi qu'il y a de piscines hors terre et creusées avec un pourcentage, mettons, de 30 % creusées, 70 % hors terre. Donc, c'est assez énorme là, pour en sachant qu'on a... ouais. T'sais, quelqu'un qui force, là, il peut commencer à utiliser sa piscine début mai avec un bon chauffe-eau, ben tu sais... Le confinement nous a fait, tu sais, j'ai un client qui est assez craqué. Là, lui, il est au lac Beauport, puis il a un chauffe-eau au gaz. Fait que le 15 mars, quand il a été confiné, il dit, viens partir à ma piscine. Avec son chauffe-eau au gaz. Non, il a pas cassé la glace. Il a parti son chauffe-eau au gaz. Il m'a envoyé une photo, puis ça a fondu en dedans d'une journée. Le malade mental, là,
c'est un gros
pas. Ah, dans le fond, il a sa grosse piscine avec son gros chauffe-eau au gaz. Fait que lui, tu sais, mettons, pour les craqués, tu peux l'avoir à peu près le 15 mars. Mais en temps normal, tu sais, 1er mai au 1er octobre, si t'as un bon chauffe-eau, tu te baignes et t'es crinqué. Fait que calcule 6 mois, mettons, c'est-tu ça, 6 mois?
5 mois, oui.
5 mois. Puis on est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de piscines par habitant. Donc, tu sais, ça vous donne une idée à quel point on aime ça nos piscines puis on aime ça notre été.
Il n'y a pas tant de personnes qui ont des chauffe-piscines. Il n'y en a pas tant que ça. Cette année, il doit avoir eu un petit peu plus de ventes dans les thermopompes. Là,
énormément aussi. Les thermopompes, ça a augmenté beaucoup. On a eu des grosses.
Faites-vous l'entretien de ça aussi?
En fait, on a des partenaires qui s'occupent de l'entretien de la thermopompe. C'est-à-dire, quand il y a un problème, là, on fait affaire avec des frigoristes. Nous, on en installe, on en vend, on en change. C'est juste que tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est justement les éléments réfrigérants, puis tout ça, c'est soit un frigoriste, un plombier ou bien un électricien, exactement. Ouais. Exactement.
Ouais, c'est ça. Vois-tu, moi, dernièrement, je parlais avec Semico, ce qui sont ici, ça, sur la rive sud. Je sais pas si des fois, tu travailles avec eux, je parlais avec le propriétaire, puis il disait ce qui arrive aussi pour l'année prochaine, c'est qu'on peut se permettre de choisir un peu plus nos projets. Donc, souvent, ça va être les gens qui ont des plus gros projets ou des aménagements de terrain autour. Fait que, tu sais, ça fait peut-être aussi que les gens qui ont des plus petits projets ou une installation plus modeste, ben, vont peut-être même avoir de la misère à avoir de la place l'été prochain. Ouais, c'est ça le phénomène qui se passe. Là.
C'est sûr que là, rendu là, ça dépend, je te dirais, du mindset de l'entreprise. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui c'est premier arrivé, premier servi, peu importe le projet, mais tu sais, quand quelqu'un t'arrive avec un projet d'une couple de 100 000, incluant l'aménagement paysager, c'est sûr que tu auras plus tendance à vouloir l'accommoder. Mais tu sais, ouais. De notre côté, on fonctionne beaucoup plus premier arrivé, premier servi, puis on s'organise selon nos prévisions pour toujours avoir de la place.
Et d'avoir les ressources qui sont
exactement,
nécessaires.
Exactement. Je veux dire, on n'a pas d'excuses. Là. On a tout l'hiver pour engager notre monde pour l'été d'après.
Une game de volume, vous
avez. Ben, c'est ça. Puis au final, je veux dire, on a, là, au niveau de la main-d'œuvre, nous, on engage beaucoup de jeunes étudiants pour ce qui est le travail un peu plus simple. Donc, le bassin de main-d'œuvre est quand même là.
Même cette année?
Oui, ben cette année, on a été chanceux.
PCU.
Ouais, la PCU en a touché.
Ah, j'ai pas la toune, on devrait le mettre sur notre truc.
Mais la PCU,
petit jingle,
PCU. Oui, oui, oui. C'est une bonne PCU, idée, je vais me le prendre en note.
À Montréal, ça a été difficile pour ouais. la PCU, beaucoup plus qu'ici à Québec, parce que. On a été chanceux, là. On a eu beaucoup de jeunes sportifs, là. Tu sais, des équipes de hockey, là, des équipes ouais. de football qui venaient travailler avec nous. Fait que, tu sais, c'était des gars qui voulaient bouger, peu importe. Ça ouais. tentait pas de rester
pas
chez eux.
Pas de Tout est cancellé.
Non, c'est ça. Tout est cancellé. Ils peuvent pas sortir d'un bar. Fait que pour nous, c'était bon, là.
C'était pour vous, c'était bon.
Ouais, parce que des fois,
les gars. 10 tours de la piscine, puis après ça, t'as vite. Fait 10 tours.
Mais, tu sais, t'es un gars de sport aussi.
Ouais, exactement.
Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, puis Kevin aussi, puis moi aussi, puis souvent, les gens qui ont été dans le sport vont s'associer avec des gens qui ont été dans le sport parce que. On est capable d'avoir une rigueur, une discipline, puis on est capable de focusser sur des résultats et des objectifs, fait que c'est quand même super cool. Puis on va se le dire aussi, une piscine, c'est super vendeur. Tu sais, je suis courtier immobilier, on a l'occasion de vendre des propriétés. Il y a certaines personnes qui vont préférer avoir des piscines, d'autres non. Ça, il faut faire toujours attention parce qu'il y en a qui vont attribuer une certaine valeur à une piscine, d'autres aucune. Par exemple, dans mon couple, moi, j'ai zéro valeur sur une piscine. Ma blonde, elle a beaucoup de valeur sur une piscine. Fait que c'est, on va avoir une piscine, les gars, je vous annonce ça.
J'ai fait un compromis.
Ouais, c'est ça, j'ai fait un compromis. Ma blonde a décidé.
Allez en avoir une.
Puis, au niveau des investissements de piscine, tu disais tantôt 70-30, je trouve ça quand même cool au niveau des types de produits. Vous faites aussi du spa, installation, ouais. entretien de spa. Fait que vous faites ça à l'année aussi. Là. Il y a ouais. des gens pendant l'hiver qui vont pouvoir faire l'entretien des spas.
Piscine intérieure aussi.
Il y a des piscines intérieures. Il y a maintenant des mini-piscines.
Des mini-piscines, des piscines intérieures. Les mini-piscines extérieures, encore une fois, c'est une question de chauffage. Je veux dire, l'hiver, là, garder un bassin extérieur en fonction, ça coûte très cher. Puis c'est très souvent, les gens qui gardent, par exemple, leur spa ouvert le premier hiver, ils vont se rendre compte qu'ils en prennent pas souvent. Tu sais, fait qu'ils vont dire ça vaut pas nécessairement la peine. Il y en a d'autres qui en prennent très souvent aussi. Tu sais, ça dépend vraiment de comment tu utilises ton bassin. Mais oui, tu sais, il y a toujours des spas. Puis il y en a énormément de spas aussi là, qu'on s'occupe durant l'hiver.
Puis là, tu sais, il y a différents formats. Quel genre de prix qu'on peut passer, par exemple, pour une piscine creusée, béton, 10 par 20? Y a-tu des. Puis c'est sûr que je veux pas que tu te commettes à dire moi, je fais mes piscines à 25 000, venez me voir, tout le monde, n'a pas de problème, peu importe le sol, je vous le fais à ce prix-là. C'est pas ça l'idée, mais juste pour avoir une vue globale là, de qu'est-ce que ça pourrait coûter. Là, admettons une piscine creusée 10 par 20, qui est quand même pas un gros format, non. mais qui est un format bien correct.
C'est rendu des formats très populaires parce qu'on est en mesure de les faire sur mesure. Moi, je parle des piscines en acier, qu'on fait l'acier sur mesure avec une toile et pas de monocoque en fibre de verre. Là. Une monocoque en fibre de verre, je pense que tu peux même aller chercher un prix plus bas parce que ça vient comme un gros bain. Donc, c'est beaucoup
c'est
plus
en
simple.
Usine,
puis... Exactement. C'est fait en usine. Voici ton format de piscine. Voici ce qu'on va t'installer.
Tes marches sont dans ce bar-là.
C'est ça.
Puis tu peux pas y mettre l'autre bar parce que notre moule est de cette façon-là exactement. Parce qu'on l'a vécu nous autres aussi.
Nous autres, de notre côté, une 10 par 20, on en a fait une cet été pour une de nos bonnes clientes. Puis elle, c'est exactement ça. 10 par 20 rectangulaire avec une plage, donc un genre de 8 pouces d'eau pour pouvoir les enfants se baigner, se prélasser avec une chaise longue. Après, tu tombes dans le pas creux, puis le creux est 4 pieds ou 5 pieds, si je me souviens bien. Donc maintenant, c'est des piscines. Ce qui va avoir une incidence sur le prix, c'est la profondeur et la grosseur. Donc, moins c'est profond, moins ça coûte cher parce que tu as moins de remplissage à faire. Ton acier, tu en as moins à produire aussi. Puis ça coûte aux alentours de 25-30 000, incluant, si on parle de la portion béton tout le tour, on a fait du béton.
Et qu'on parle d'un trottoir à peu près d'un mètre sur tout le pourtour de la
piscine. C'est ça, c'est du 3 pieds. Puis même qu'elle en a pris un peu plus large, parce qu'une fois que tu as la bétonnière, là, c'est plus facile. Mais entre 25 et 30 000, tu es capable d'avoir une piscine dans ta cour du début à la fin, vraiment. Puis une belle piscine, tu sais, avec une toile, puis de la manière que tu veux. Donc tu veux un banc pour t'asseoir, on est capable de te mettre ça. Tu veux une plage, on te met une plage. Tu veux des marches extérieures, on te met des marches extérieures. C'est très personnalisable. On dit
c'est bien. À ce moment-là que moi, je coupe l'enregistrement puis qu'on ne l'utilise pas parce que ma blonde, elle va dire hey, « c'est malade, ça! »
Oui, c'est ça qu'elle a entendu le mot « plage » deux fois. Là. Parce qu'il y a aussi, là, ça existe, un genre de plage de sable, tu sais. J'aime ça les genres de piscines que tu...
Ben, en fond, c'est parce qu'il y a des piscines que tu rentres comme dans une plage, là, si on veut. Ça, faut que ce soit une piscine en béton. Fait, faut que tu aies une continuité entre ton béton et puis ton trottoir, puis que ça rentre dans le béton de la piscine. Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher, parce que dans le fond, il faut que tu accoules, puis t'as ton coffrage à faire, puis tout ça. Les anciennes piscines, beaucoup à Sainte-Foy, c'est le Charlebourg, les gros mastodontes en béton,
de
20 pieds de profond quasiment, là, tu sais, je veux dire, c'est fou.
Olympique.
C'est ça. Il y en a encore qui se font, mais c'est sûr qu'au niveau prix, ça va être un peu plus coûteux, puis ça prend une expertise. C'est pas tout le monde qui va te faire une piscine en béton de cette manière-là, parce que ça prend une expertise.
C'est moins la tendance de l'industrie. Donc,
exactement. C'est plus vers les petites piscines qu'on s'en va.
Je pense pas qu'on veut devenir aussi l'alternative au village des sports, là. Tu sais, il faut faire la part des choses avec ça, mais en parlant de piscine béton, tu parles de coquilles en acier. Il y en a d'autres qui vont les faire en béton-béton. Puis il y a même eu une certaine époque où c'était des piscines municipales quasiment qui étaient juste en béton peinturé.
C'est ça.
Fait que c'est-tu...
C'est le même principe, dans le fond. Les piscines que je te parle, c'est comme une piscine municipale un peu plus petite. Une piscine municipale, mettons, ça va être 40 par 80. C'est immense, mais tu sais, les piscines qu'on a en béton, c'est du 20 par 40, ce qui est très gros. Tu sais, c'est vraiment beaucoup plus petit que le 10 par 20 qu'on parle. Mais maintenant, la tendance, c'est d'avoir une piscine pour se rafraîchir. Puis pourquoi c'est juste du pas creux? Parce que tu peux prendre une bière avec tes amis, tu peux jaser, tu joues avec les enfants. Je veux dire, à moins que tu peux nager pareil. Mais
t'es jamais dans le creux quand t'es en gang, honnêtement. C'est ça, dans un party, il n'y a personne.
Non, il n'y a jamais quelqu'un qui crie
pareil. Il fait sa nage sur
ça. Je vais prendre une gorgée de bière, là, puis là, il essaie de compenser avec les trois autres membres. Là. Ça marche pas partout, ça.
Non.
Je l'ai déjà essayé.
Puis par rapport au service que toi tu proposes en termes de fourchette de prix, à quoi ça peut ressembler, en fait, que ce soit l'ouverture ou le nettoyage?
Encore une fois, ça dépend du type de piscine, mais je te dirais qu'admettons, on peut s'en sortir à, mettons, 250-300$ ouverture, fermeture pour une piscine hors terre. Puis ça monte avec une piscine creusée, une piscine de béton. Plus tu as d'écumoire, plus tu as de choses à faire, ça coûte un peu plus cher.
Si 250-300, c'est...
250$ ouverture, fermeture, admettons.
Les deux services.
Les deux services pour une piscine hors terre, ça coûte à peu près ça. Donc, c'est très abordable. Puis après ça, c'est pour les gens qui veulent, par exemple, le package avec l'entretien une fois par semaine, ce qui est un de nos plus populaires, comme je vous disais tantôt. Ouverture, nettoyage, l'entretien une fois par semaine, on la nettoie, on s'occupe des tests d'eau, puis tout ça. C'est aux alentours de 1400-1500$ pour une piscine creusée.
C'est quand même abordable.
Puis nous autres, l'avantage qu'on veut offrir à nos clients, on le met sur 12 mois sans intérêt pour eux. Fait que, dans le fond, ils payent à l'année, puis ça revient à 125$ par mois. Puis, dans le fond, on s'occupe de leur piscine du début à la fin. Fait que, tu sais, ils n'ont pas besoin de se soucier de ça.
C'est quand? On peut t'appeler mi-mars pour l'ouvrir.
Ouais, c'est ça.
Si on est crinqué.
Si on est vraiment crinqué, mais c'est quand même fou. Puis, dans les piscines, dans les valeurs ajoutées qu'on peut produire par rapport à tout ça, tu sais, on le sait dans les complexes de condos que souvent, il va y avoir des services de piscine intégrés, des gyms, des salles de conférences ou peu importe les services qu'ils vont offrir. Est-ce que ça commence à se voir un peu plus dans le multilogement que des investisseurs vont ajouter dans un immeuble locatif, non pas copropriété, mais locatif, du service incluant une piscine?
Ce qui se voit beaucoup, nous, on fait affaire avec plusieurs compagnies comme celle-là qui achètent du multilogement, c'est de la réfection de piscine. Parce que très souvent, c'est rare qu'on va implanter une piscine, par exemple, intérieure dans une bâtisse parce qu'il faut que tu le fasses au moment de la conception. Mais ils se rendent compte, justement, que le besoin est là, puis ils veulent ajouter, comme on se parlait, justement, une valeur pour leur résident, leur locataire. Donc, ils vont mettre de l'argent dans la piscine, ils vont remettre ça droit, comme on dit, puis ils vont s'organiser pour que ce soit fonctionnel. Ce qui avait été peut-être laissé à l'abandon un petit peu plus avant.
Tu parles d'un ensemble immobilier, mettons dans Sainte-Foy, qui aurait une piscine au centre, puis qui aurait été délaissé des années, mais là, ils sont prêts à investir parce que les locataires reconnaissent.
C'est beaucoup au niveau, ça dépend beaucoup, c'est qui le propriétaire. Tu sais, je dirais que les plus jeunes propriétaires ont plus tendance à avoir cette mentalité-là. Puis ceux-là un peu plus âgés, ils ont peut-être une mentalité un peu plus du passé, si on veut, où c'était plus une dépense qu'ils voyaient ça, alors que les autres, ils voient l'avantage d'investir dans la piscine pour offrir une valeur ajoutée à leurs locataires pour remplir
d'augmenter le loyer, d'assurer une qualité de service, etc. Puis, c'est de plus en plus, les investisseurs utilisent leurs locataires ou, tu sais, offrent des services hôteliers à leurs locataires. Fait que, tu sais, ça devient quand même intéressant. Mais est-ce que tu vois, par exemple, de l'implantation de nouvelles piscines, par exemple, sur un 12-24 logements qui était déjà existant, qui a souvent un grand terrain vacant en arrière? Y en a-tu qui commencent à investir un peu pour ajouter des piscines à leur comme service à leurs locataires?
Dans les projets neufs?
Bien, sûrement dans les projets neufs, ça se voit.
Dans les constructions neuves, ça se voit beaucoup.
Dans les plus petits projets, comme tu dis, peut-être.
Mais dans les petits projets, j'en vois pas beaucoup. Honnêtement, pas beaucoup. Là, tout ce qui était en... anciens blocs, je veux dire, les blocs un peu plus âgés, il n'y en a pas beaucoup qui vont mettre une piscine, racheter une piscine, parce que c'est un peu le même principe que tu parlais tantôt, comme pour toi et ta blonde. Ils vont faire probablement le pari que leurs locataires, ce soit des gens qui ne veulent pas nécessairement de piscine ou qui n'ajoutent pas une valeur à faire ça. Alors, pourquoi investir pour mettre une piscine alors que je vais trouver des locataires pareils? Mais c'est certain que quand tu construis une construction neuve, un gros projet neuf, tu veux offrir la piscine à tes, tes locataires ou à tes futurs.
Ça peut devenir une alternative encore plus intéressante pour que les locataires viennent louer chez vous à un prix plus grand que qu'est-ce qu'il y aurait sur la compétition, sur le marché de la revente. Tu sais, ça, c'est quand même...
Effectivement, puis tu parlais d'une installation peut-être de 20, 25 000 plus un entretien annuel de peut-être
C'est pas si cher, mais...
Sur un projet de quelques millions...
C'est sûr que je ne mettrais pas, par exemple, une piscine 10 par 20 dans un projet de multilogement, parce qu'à un moment donné, ça te prend un certain volume d'eau pour contenir le nombre de personnes qui vont se baigner. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme le principe d'un spa. Il faut faire attention avec les spas qui sont publics, parce qu'il y a tellement un petit volume d'eau qu'il faut que tu fasses attention. Il faut que tu contrôle ton eau beaucoup plus assidûment, parce que deux personnes dans un spa peuvent te briser complètement tes paramètres de ton eau, alors que deux personnes dans une piscine 10 par 20, c'est une goutte dans l'océan. Là,
écoute, c'est super intéressant. On est obligé d'aller en pause. La bulle immobilière est diffusée maintenant tous les samedis à 11h. On tient à remercier Kevin Pépin avec Copy Management, qui est maintenant notre commanditaire officiel de la bulle immobilière. Fait qu'on devrait avoir plusieurs chroniques à la fin de nos émissions. Si vous désirez écouter tous nos podcasts, vous pouvez avoir accès sur notre site internet jean-françois-morin.ca.
Vous écoutez le 96.9 FM Lévis.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François et Kevin Filion. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de l'univers de la piscine avec Émile Doré-Parent de H2 Pro Piscine. Ou Piscine H2 Pro?
H2 Pro Piscine, Piscine H2 Pro, comme tu veux.
En anglais, en français.
H2 Pro.
Écoute. C'est à Montréal?
Comment? Ouais, à Montréal. Les clients anglophones, c'est H2 Pro.
H2 Pro.
C'est email aussi. Au lieu d'Émile.
Oh! Parce que là, j'étais pas avec les mêmes invités pantoute, là. Gun, écoute, j'aimerais que tu nous parles juste avant qu'on parle de Q-Line sur comment choisir, comment faire notre entretien, etc., au niveau des piscines. J'aimerais que tu nous parles un peu des approches commerciales, multilogement versus qu'est-ce qu'on peut voir dans le résidentiel, parce qu'il doit y avoir quand même une ligne directrice qui fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde qui a une piscine chez eux n'est pas dans l'obligation d'entretenir sa piscine de la même façon que les gens qui ont une copropriété, par exemple.
Exactement. Ben, les bases sont les mêmes. Par contre, quand tu as une copropriété ou un endroit, un immeuble multilogement, c'est difficile de trouver une seule personne ou de payer une personne juste pour s'occuper de la piscine. Donc, ça prend quelqu'un de compétent qui sait qu'est-ce qu'il fait. Il y a quelques règles. Surprenamment, il n'y a pas énormément de règles par le gouvernement pour une piscine avec plus de tant de nombre de baigneurs versus une piscine résidentielle. Par contre, il y en a une qui est importante, c'est de faire des analyses microbiologiques, donc pour le E. coli, la turbidité, donc la turbidité, c'est la clarté de l'eau. C'est pour ça qu'il y a les fameux points noirs dans le fond des piscines. C'est quand tu vois plus le point noir, ça veut dire que la turbidité n'est pas bonne dans ta piscine. Les staphylocoques puis les pseudomonas. Donc, c'est toutes des bactéries que tu peux pas déceler avec les machines que nous, on a. Faut que tu amènes ça en laboratoire. Puis tu sors ton registre, puis tu l'affiches. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire pour les copropriétés, puis tous les bassins qui ont plus de 50 baigneurs.
Avec une certaine fréquence, j'imagine.
Exactement. Ça, il faut le faire aux deux semaines pour les piscines extérieures, puis à chaque mois pour les piscines intérieures. La même chose pour les spas, puis pour les piscines.
Puis dans un cas comme ça, par exemple, vous offrez ces services-là. Quelqu'un qui aurait une copropriété et pas dans l'obligation d'avoir quelqu'un à l'interne qui va gérer ça, va pouvoir donner ça à l'externe, puis vous allez faire ces tests-là, puis vous allez laisser les registres sur place, sûrement?
Exactement. Ben nous, on a un portail en ligne pour tous nos clients où ils vont pouvoir aller chercher leurs registres, aller chercher qui a fait quoi, à quelle heure, puis avec les produits qui ont été mis. On a mis ça en place justement pour se différencier de la compétition. Les autres choses qui sont importantes, c'est pas nécessairement au niveau des services, mais c'est au niveau des valeurs de la désinfection de l'eau. Donc, il faut toujours que ton chlore soit entre 1 et 3 ppm dans ta piscine, peu importe le moment de la journée. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent toujours d'avoir 3 mesures dans la journée. Souvent, c'est les sauveteurs qui le font parce qu'ils sont là. Quand tu n'as pas de sauveteur, il faut que tu tiennes ton registre pareil. Donc, ça prend quelqu'un qui le fasse ou bien nous, on le fait. Évidemment, 3 fois par jour, c'est un peu, selon moi, un peu du zèle dans l'optique où, tu sais, il n'y a pas une compagnie qui va payer pour qu'on se déplace 3 fois. C'est pour ça que ça prend quelqu'un à l'interne qui puisse le faire dans les copropriétés. Quand je dis le niveau désinfectant, c'est autant le chlore que le sel. Donc, c'est-à-dire que ton système au sel va produire du chlore, puis il va se retransformer en sel. Tu sais, c'est juste chimique, c'est NaCl, le sel. Donc, c'est du chlore qui désinfecte ton eau. Ça se retransforme en sel, ça s'en va dans ta piscine. Donc, le niveau de ppm de chlore est le même dans une piscine au sel ou dans une piscine au chlore. C'est juste qu'il y a du sel dans une piscine au sel.
Okay. Puis quand tu dis « il demande », c'est qui?
C'est la santé publique. Donc, dans le fond, la Santé Canada demande à ce qu'il y ait un certain nombre de ppm de chlore en permanence, dans le fond, de niveau de désinfectant. C'est différent ici au Canada qu'ailleurs, par exemple, en Europe, ils demandent un minimum, parce que c'est pas nécessairement le désinfectant qui fait qu'il n'y a pas de bactéries dans l'eau. Dès que tu en as un minimum, il n'est pas supposé avoir rien dans l'eau. Ici, c'est entre 1 et 3. maximum 5, sinon il faut que tu fermes ton bassin. Il y a quelques règles comme ça qui sont importantes pour les bassins commerciaux. Puis que c'est pas aussi important que ça. En fait, c'est aussi important pour les bassins résidentiels, mais c'est pas, il n'y a pas de règles strictes.
Puis, tu sais, comme d'un autre côté, il y a beaucoup moins de risques aussi que les. Il y a des variations importantes, par exemple, d'une journée à l'autre, parce que justement, il y a sensiblement toujours le même usage, le même nombre d'utilisateurs, etc. Fait que, tu sais, ça ne doit pas varier tant que ça, là.
Ça, encore une fois, tu sais, c'est ça. Ça dépend si c'est si une piscine extérieure, il fait vraiment chaud, ben là, il faut que tu en mettes un peu plus. Mais puis, encore plus, s'il y a eu 50 baigneurs dans la piscine, c'est pour ça que ça prend. Ça prend une rigueur dans l'entretien de tout ça. Puis c'est pour ça que les gens y arrivent des fois qu'ils perdent leur piscine quand on parle du résidentiel, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer sur la qualité de ton eau. Ça part de la filtration de ta piscine, ton filtreur, l'orientation de tes jets, ta pompe, quel niveau de désinfection, le chlore. Après ça, si ton pH n'est pas correct, ton chlore ne fait pas assez effet, ton niveau d'alcalinité dans ta piscine, peut-être que tu as un tuyau de bouchée. Il y a plein de facteurs qui sont là qu'il faut que tu analyses avant de dire bon, mais c'est ça ton problème.
C'est pas toujours juste de mettre une pelletée. Hein.
Non, c'est ça. Il y a bien des gens que mon eau avait trop, on va mettre une pelletée de l'or.
J'ai échappé ma piscine. Ah oui, mais c'est ça, c'est
ça. Ben, écoute, moi, j'ai eu un spa pour une histoire de genre 2 ans. Puis je pense que c'est juste ça que j'ai fait pour réparer ou remettre le l'eau potable.
Il y a encore plus potable, un spa. Mais... Là, c'est normal parce que tu as tellement un petit bassin d'eau que c'est pas long que ça vire. Ça peut virer vert, ça peut virer jaune, ça peut virer complètement trouble en dedans.
Puis tu peux avoir la peau qui pique aussi après avoir pris un spa, effectivement. Puis en parlant de ça, au niveau entretien, puis je trouve ça super pertinent que tu parles de ça, du chlore, du sel, etc. Mais il semble qu'il y a des mythes urbains qui disent « Ah, prendre du sel, c'est beaucoup moins d'entretien que le chlore, etc. etc. » C'est-tu vrai, ça?
Ben, c'est vrai que le sel... Il est autosuffisant en termes de chlore parce que le sel ne va pas s'évaporer comme le chlore. Le chlore, tu mets une poque, tu mets une pelletée, 2 jours après, il n'y en a plus dans ta piscine. Le sel, il va toujours rester dans ta piscine. Donc, c'est comme un processus de...
Ça décante lentement.
Donc. En fait, il ne s'en va pas à part si de l'eau s'en va de ta piscine. Donc,
il se retransforme toujours.
Il se retransforme toujours. Donc, tu mets ton sel, logiquement, tu as toujours du chlore dans ta piscine. Le problème... avec, si on veut, les méthodes de vente du système au sel, c'est qu'il faut que tu t'occupes autant de ton eau. Il faut que tu t'occupes de ton pH autant, il faut que tu t'occupes de ton alcalinité autant, parce qu'au final, si tu t'en occupes pas, ton eau va être belle, mais elle sera pas idéale pour tes équipements. Tes équipements vont briser plus vite, ça tout va corroder autour beaucoup plus vite. Puis un système au sel n'est pas nécessairement fait pour tous les types d'équipements. Surtout ce qui est plus âgé, quand on parlait des piscines en béton tantôt, il y a des grosses armatures d'acier là-dedans, c'est vraiment pas bon parce que ça va tout corroder. Et des grosses piscines à cylindrique, les tuyaux sont en cuivre encore. Là, fait qu'il y a des tuyaux à un endroit qu'on a vu une piscine intérieure, les tuyaux avaient tout percé à cause du système au sel, parce que les gens s'étaient fait conseiller un système au sel sans qu'il y ait eu une expertise qui a été faite sur place avant. Ouais. Donc c'est à faire attention, mais oui, c'est vrai que quand tu as un système au sel puis que c'est bien entretenu, si on veut, tu vérifies ton eau pareil, t'as pas besoin de mettre du chlore à tout bout de champ. Mais ça reste que il faut que tu t'en occupes pareil.
Puis au niveau de piscine, est-ce qu'on prend plus une piscine en béton monocoque, en béton avec des parois en acier, en béton complète ou une monocoque, par exemple, comme en fibre de verre ou des choses comme ça? Parce que ça a été une grosse vague là, cette année. Là. Les gens disaient, écoute, tant qu'à payer 30 000, je vais payer 15 000.
C'est ça.
Puis je vais avoir un bassin pareil à la maison, etc. Mais on ne sait pas les preuves de la durabilité au fil du temps, etc. Est-ce que c'est des bons produits? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à tout ça?
Bon, ben, les piscines en béton, premièrement, ça a été éprouvé. Là. Ça fait des dizaines d'années. C'est les premières piscines qui ont été faites. Donc ça, c'est certain que c'est éprouvé, mais c'est beaucoup plus onéreux au niveau de la construction puis au niveau de l'entretien aussi. Parce qu'il faut toujours faire un nettoyage, un sablage du béton aux 10 ans à peu près. Il faut peinturer aux 2-3 ans. Donc, on parle des frais assez élevés. Une piscine en acier, donc avec des panneaux d'acier qu'on fait sur mesure, comme je parlais, comme nous, on privilégie, avec une toile, c'est ce qui est le meilleur des deux mondes. Tu peux avoir la forme que tu veux, tu mets ta toile, il faut changer la toile aux 10-15 ans à peu près, puis c'est un entretien qui est normal.
Ça peut représenter combien, par exemple, piscine 10-20, une toile?
C'est ça qu'on s'est parlé tantôt, 25-30 000.
Non, je parle de la toile seulement quand on a besoin de la changer.
Juste changer la toile, je te dirais entre 3 et 4 000.
3 à 4 000.
Changer la toile.
Parce que tantôt, 25-30 000, je l'avais suivi cette partie-là.
C'est ça. Non, c'est ça. Changer la toile, c'est à peu près ça.
Okay.
Au 10-15 ans, un 3 à 4 000. Puis pour une grosse piscine, c'est à peu près 5 000.
Okay.
On va donner des chiffrons. Puis après ça, quand on parle d'une monocoque en fibre de verre, ça dépend beaucoup du terrain aussi. Puis pourquoi ça coûte moins cher? C'est parce que tu amènes la structure, puis tu la mets dans le sol, mais tu n'as pas la même préparation de terrain. Donc, si ton terrain, par exemple, il n'y a pas un bon drainage, ben ça se peut qu'il y ait des problèmes avec ta piscine en fibre de verre. La tuyauterie ici est pas faite de la même manière. Puis des fois, tu as beaucoup de jets. Donc, ça ressemble à un spa. Puis un spa, c'est beaucoup de très ardu à réparer parce que tu sais pas où ta fuite. Tu as 10 000 jets. Une piscine en fibre de verre, ça peut arriver comme ça. Quand c'est une belle préparation de terrain, tu creuses ton sol comme il faut, tu mets ta pierre nette en masse, tu mets beaucoup de pierre nette. C'est ça qui est important. Mais là, ça vaut la peine. Mais quand tu fais ça, ça revient au même prix qu'une piscine en acier. Tu sais, je veux dire, les gens qui achètent une piscine monocoque, c'est parce que la préparation n'est pas toujours adéquate. Je dis pas qu'elle est.
Puis, tu sais, un des risques qui doit arriver aussi avec ça, tu sais, veux pas, tu viens rajouter un genre de bateau à l'intérieur de ton sol. Fait que si jamais t'as pas assez de trois quarts nets, puis ta nappe phréatique lève, ben ça se peut que ta piscine, elle se fasse pousser du sol aussi.
Ça nous est arrivé à quelques reprises, tu sais, puis c'est arrivé. Les piscines en béton, ça peut arriver aussi, parce que c'est le même principe. Tu sais, c'est comme un gros bateau en béton. Ça nous est arrivé, v'là 2 ans, dans une piscine intérieure. Il n'y a plus en décembre. Puis nous, on avait vidé la piscine pour la repeindre. Ça a levé. Tu sais, on pouvait rien prévoir. En fait, on pouvait pas savoir. C'était dans le bas d'une côte. Il n'y a plus la nappe phréatique. Tu sais, c'était assez impressionnant. Puis avec les piscines en fibre de verre, c'est le même principe. Les spas nature aussi en fibre de verre, ça arrive. Là. Tu sais, c'est pour ça que c'est important, quand on fait les fermetures de tout ça, de laisser le bon niveau d'eau pour qu'il y ait une certaine pression pour éviter que
Parce que là où il y a de l'eau, il y a le phénomène de gel aussi.
Exactement.
Ça, ça repousse.
Exactement, ça repousse. Puis tu sais, c'est plus touché, si on veut, les piscines en fibre de verre, mais ça reste des bons produits quand on choisit la bonne chose.
Puis au niveau fermeture, je trouve ça quand même intéressant comme question. On ferme-tu début septembre ou on ferme fin octobre? À quelle place qu'on ferme notre piscine?
Ça dépend de beaucoup de facteurs. Premièrement, tu peux la fermer quand tu veux. La seule chose, c'est que plus tu attends, mettons, les gens, on entend souvent, moi, je la ferme tard parce que c'est plus facile à ouvrir. Ça, c'est en considérant que tu t'en es occupé jusqu'à la fin. Donc, tu sais, si tu la fermes, puis, je veux dire, il y a des gens, ils la ferment le 30 octobre, mais ils s'en occupent plus depuis le 30 août. Fait qu'elle est bien verte, elle est bien noire. Fait que, tu sais, ça change absolument rien.
Plus facile.
L'objectif de la fermer tard, c'est que tu t'en occupes, elle est bleue, elle gèle bleu. Et quand elle va dégeler, elle va dégeler bleu. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Tu enlèves tes feuilles, tu enlèves tes choses, puis tu l'ouvres parfaitement. Les clients qui font affaire avec nous, ça ne change pas grand-chose pour eux parce que nous, on s'occupe de l'ouvrir puis on s'occupe de la nettoyer. Donc, qui ferme tôt, qui ferme tard, il n'y a aucune incidence sur le prix puis aucune incidence sur le moment où c'est qu'on va l'ouvrir. Mais c'est certain que pour les gens qui veulent que ce soit beaucoup plus simple à ouvrir, moi, je suggérerais que tu l'entretiens sans nécessairement passer la balayeuse. Tu mets un petit peu de chlore puis plus l'eau est froide, moins tu as besoin de mettre de chlore. Donc, tu mets une petite pote de chlore, tu vides ton écumoire, tu enlèves tes feuilles, puis quand tu es prêt à la fermer, tu la fermes autour du 20, 25 octobre, 30 octobre. Plus tard que ça, tu peux attendre, mais des fois, le gel peut prendre. Fait que j'aime mieux pas prendre de risque. Ouais. On ferme ça là, puis après ça, logiquement, quand tu vas l'ouvrir, ça va être beaucoup plus simple.
Ça va être plus rapide aussi.
Exactement.
Tu sais, à place d'attendre une semaine, sûrement, après l'ouverture, là, quand que vous faites l'ouverture, avant que l'eau soit bonne, etc.
Ça prend entre 7 et 10 jours, dépendamment, encore une fois, de la filtration. Le sable dans le filtreur, est-ce que ça fait longtemps qu'il a été changé? Est-ce qu'il y a beaucoup de stabilisants dans l'eau? Tu sais, souvent, il y a beaucoup de facteurs. Tu sais, j'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Pas juste, par exemple, il y a-tu assez de chlore dans l'eau? Il y a plein de choses qu'il faut penser quand on ouvre une piscine.
Puis au niveau thermopompe, au gaz ou électrique?
C'est sûr qu'au niveau du prix, à l'achat, une thermopompe va coûter plus cher, mais tu vas sauver énormément d'argent. Une thermopompe au gaz ou un chauffe-eau au gaz, ça coûte moins cher à l'achat. C'est instantané. Tu sais, je veux dire, tu peux chauffer ta piscine, elle est à 70, mais une heure après, elle va être à 85. À cause que c'est très, très puissant. C'est juste que ça coûte très cher de gaz. Une thermopompe, à l'achat, ça va coûter beaucoup plus cher.
On parle d'une thermopompe électrique.
Une thermopompe électrique. Parce qu'un chauffe-eau électrique, tu as des petits chauffe-eau avec un élément électrique, que l'eau passe dedans puis ça chauffe. Ça, je veux dire, ça coûte très cher d'électricité, ça chauffe vite comme un chauffe-eau au gaz, une thermopompe électrique. Là, ça va prendre l'air ambiant pour réchauffer ta piscine. Donc, c'est plus long, c'est juste que tu vas garder un niveau plus stable. Ça va coûter beaucoup moins cher d'électricité durant l'été.
Puis sur une piscine creusée, on met-tu une toile ou on met pas de toile? Je me suis déjà fait dire, écoute, tu te fais poser une piscine creusée, là, commande, mets pas de toile là-dessus. Là.
Toile solaire?
Ouais.
Tu sais, moi, je parle en tant que gars qui nettoie les piscines puis qui veut qu'ils soient propres. Tu sais, mettre une toile solaire, c'est vraiment un calvaire parce que tu l'enlèves pour nettoyer ta piscine, tu remets toutes les cochonneries qui tombent dedans. Donc, tu sais, pour ça, c'est vraiment pas l'idéal.
Est-ce qu'il se développe quelque chose plus rapidement? Ou
ben, en fait, des fois, tu vois pas. Ça nous est arrivé aussi cette année à un de mes gars. Tu sais, la cliente, elle sort, on va se baigner, ça va être super le fun. La toile là-dessus, il enlève, l'eau est verte en dessous. Tu sais, on le voyait pas parce qu'il n'y avait pas eu assez de chlore, donc l'eau était virée verte. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça nécessite un petit peu plus de chlore, mais pour garder la chaleur, ça donne une bonne job. Mais ça dépend de chaque personne. Chaque personne, s'ils veulent la dérouler à toutes les fois, la remettre à toutes les fois, puis ça leur dérange pas que des petites saletés tombent, c'est sûr que ça...
Puis ça existe-tu, ça, des toiles liquides?
Ça existe. C'est un liquide que tu mets dans l'eau. Je te dirais que la performance de ça n'est pas nécessairement énorme, mais ça peut bien fonctionner. Ce qui existe aussi, c'est des toiles électriques qui se déroulent. En fait,
un
c'est
panneau,
un
là.
Panneau qui se déroule, que tu peux marcher là-dessus. C'est sûr que là, on n'est pas dans les mêmes gammes de prix, puis c'est du sur-mesure, mais c'est le genre de choses qui peuvent se faire aussi. Donc, à chaque fois que tu te baignes, tu la remets par-dessus. Il n'y a pas de risque de noyade, puis... Ouais. Elle va rester
chaud. Et au niveau des panneaux comme le spa, ça se fait-tu des panneaux en plusieurs blocs que tu viens plier puis que tu mets au bout de ta piscine?
Ce serait trop compliqué de mettre ça. Ça existe pour les petites piscines, les petits spas nature.
Les mini-piscines, etc. Ouais, okay.
Mais c'est pas quelque chose de très pratique.
C'est cool de démystifier le monde de la piscine. Hein? On dit c'est une émission d'immobilier, etc. Ouais, mais crime, veut pas, il y a plein de questions.
Il y a pas mal de trucs à savoir pareil.
Il y en a plus que.
C'est pas juste le chlore.
C'est ça. Mais tu es capable de t'en sortir juste avec du chlore. Il y en a une gang qui le font.
Ouais.
C'est juste que c'est à long terme, c'est peut-être pas l'idéal.
Puis, en quelques minutes, parce qu'on va devoir finir l'émission, ça va vraiment trop vite. On était habitué sur une formule 2 heures, fait qu'on prenait vraiment le temps de jaser avec nos invités. Maintenant, on condense un peu le contenu, mais quand c'est toujours pertinent, ça va toujours, c'est toujours plus vite aussi. Ça va vraiment trop vite. C'est où l'avenir de votre business dans les prochaines semaines, mois, années là? Tu sais, on parle de franchise, on parle de développer d'autres franchises à l'intérieur de du maître franchiseur, mais c'est quoi vos perspectives court, moyen, long terme?
Je te dirais qu'à court terme, c'est vraiment d'améliorer encore une fois notre service, d'offrir toujours du meilleur service, tout en grossissant, d'offrir le meilleur service à tous nos clients pour pas qu'ils voient de différence entre le gars qui a 10 clients puis le gars qui en a 1000. Puis à moyen terme, c'est vraiment d'avoir toutes les régions du Québec, de leur offrir notre service, de pouvoir leur offrir.
Tu sais, au moins, t'es quand même humble, tu sais, d'avoir, je pensais t'allais dire, toutes les piscines en service.
Non, mais tu sais, à long terme, l'objectif, c'est d'avoir le plus de clients possible à servir puis à satisfaire. C'est juste qu'au final, tu sais, je suis conscient qu'on est dans un lieu compétitif. Mais c'est vraiment de desservir tout le Québec, éventuellement le Canada et peut-être ailleurs, tu sais, parce que tant et aussi longtemps que les gens vont vouloir ce service-là, que notre modèle va bien fonctionner, que notre programme va suivre, tu sais, on fait des améliorations, on veut faire des algorithmes pour faciliter, si on veut, la gestion des opérations parce que c'est beaucoup de voyagement. Mais nous, on va toujours vouloir l'offrir à plus de gens possible.
Mais tu sais, une chose que moi, je retiens beaucoup par rapport à toute notre entrevue, c'est que votre objectif est, oui, d'avoir une nouvelle clientèle. Votre clientèle a doublé d'année après année depuis plusieurs années. Mais une chose a toujours été mentionnée, c'est qu'on veut offrir une qualité de service puis s'assurer que les gens refassent affaire avec nous l'année d'après. Puis moi, je pense que dans n'importe quel business, du moment où que tu t'occupes de tes gens, tu leur donnes du service, peu importe le coût que tu factures, viens... que les gens vont être loyaux à toi puis vont perdurer dans le temps avec toi.
Entièrement
c'est
d'accord.
La récurrence, c'est ça. Là.
C'est le plus important.
Ça va bien, puis à un moment donné, c'est un dossier réglé. Mais dans ça, leur tête, c'est, tant que ça va bien.
C'est
fait
ça. Qu'après, puis, tu peux filer. Puis même quand ça va mal, parce que si tu as une piscine, c'est de l'eau, il y a quelque chose, des choses qui coulent. C'est la manière que tu réponds à ces problèmes-là. Puis les gens, c'est vrai, comme tu dis, qu'ils aiment ça. On a quand même une certaine proximité. On est dans le cours arrière des gens. Là. Des fois, ils sortent en bobette avec un café. Je veux dire, on voit un peu tout.
C'est à cause que tu as été poli avec les bobettes parce qu'il y en a qui
c'est
rien.
Non, c'est ça. Mais c'est un peu ça aussi.
Écoute, Émile Doré Parent, propriétaire, président de Piscine H2 Pro, un grand merci de nous avoir démystifié l'univers de la piscine. Gars. Je trouve ça vraiment très cool. Juste après la pause, Kevin Pépin vient nous parler avec Copy Management. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle journée. Bye-bye.
L'Alternative Radio.
De l'attitude, du brassage, du niaisage,
du vice,
de l'info, du débat,
des blagues,
du sérieux.
Le talk à CJMD.
Incomparable.
Salut tout le monde, on est aux chroniques Copy Management avec Kevin Pépin. Comment ça va, Kevin?
Ça va bien, Jeff. Et toi, Kevin?
Yes, sir. Toujours.
Deux Kevin dans pièce aujourd'hui.
Pour le prix.
Toujours en minorité. toujours pareil bon. Dans nos familles. Hein, maintenant, on est en minorité dans nos familles, Kevin.
Ouais.
Avec 3 enfants, ça va vite. Puis quand on va à l'épicerie ou quoi que ce soit, c'est les 3 autres Kevin.
La journée passe vite.
Kevin, on a parlé de divers sujets. Aujourd'hui, on va parler de la modélisation de son équité. C'est quoi ça, la modélisation de l'équité?
Ben, en fait, l'équité, ça veut simplement dire votre valeur nette. Donc, quand vous faites de l'investissement immobilier, vous avez la valeur de votre immeuble plus toutes les dettes associées à l'immeuble. Ce qui reste à la toute fin, donc les actifs moins les passifs, eh bien, c'est l'équité, c'est la valeur nette. Et cette équité-là va croître à chaque année. Donc, puisque vous avez vous avez des opérations, vous continuez d'encaisser des revenus, vous continuez d'augmenter vos revenus, vous avez des dépenses des dépenses d'opération de votre immeuble, eh bien, il va y avoir un bénéfice annuel qui va faire augmenter votre équité. Mais cette équité-là, comment est-ce qu'on est capable d'apprendre à la modéliser? Comment est-ce qu'on est capable de la décomposer? Donc, par exemple, vous pouvez avoir un portefeuille de placement immobilier de 10 millions de dollars. Puis, on prend le scénario du premier portefeuille de 10 millions de dollars où est-ce que il génère, par exemple, 300 000 de liquidité annuelle. Donc, il génère un 3 %. Ensuite de ça, vous avez un 600 000 de capitalisation. Donc, un 6 % de capitalisation. Et pourrait générer après ça un autre 5 %, donc un autre 500 000 de gain de valeur. Donc, on voit que la composition du bénéfice que génère cette équité-là est beaucoup plus illiquide que liquide. Et ce qui est intéressant en modélisation, quand on travaille avec des métriques de base qui gouvernent autant la partie bancaire, la partie marchande et la partie opérationnelle, on est capable de le modéliser et de bâtir des portefeuilles d'investissement immobilier avec des compositions de rendement qui sont différentes.
Puis à quel point on veut le rendre liquide, notre rendement? Pourquoi le rendre liquide?
Bien, évidemment, je pense que...
Si, mettons, le liquide nous suffit dans ton exemple. Disons, on a un portefeuille de 10 millions,
ouais.
On reçoit 300 000 par année, ça suffit à nos besoins, ça suffit à nos besoins. Pourquoi faire des démarches pour le rendre plus liquide? Puis à quel point on doit avoir cette cible-là?
Bien, c'est sûr que, tu sais, t'as bien beau avoir de liquidité immobilière, ça reste que la valeur existe vraiment quand tu l'as vendu, là. Donc, ouais. C'est une problématique en immobilier, c'est que c'est à la base un actif qui est illiquide. Donc, demain matin, tu préfères des valeurs de liquidation, des valeurs marchandes, t'as aussi des valeurs de liquidation. Mais pour vraiment encaisser ta valeur marchande, faut que tu passes dans le processus de vente du marché. Et pourquoi qu'on veut faire ça? C'est qu'on veut être capable d'analyser la performance de cette équité-là et de bâtir aussi une équité qui répond à nos besoins d'investissement. Donc, je me souviens quand j'ai commencé en consultation en immobilier, j'avais des clients qui venaient me voir et me disaient « Kevin, moi, je veux avoir... je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. » Okay? C'est souvent le cas classique des gens qui veulent investir, se bâtir un patrimoine dans l'immobilier. Ils disent « Moi, là, je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. » Fait que là, il me disait, on m'a dit que j'avais besoin d'avoir, par exemple, 50 portes. C'est OK, mais ça peut, les 50 portes sont où? Tu sais, c'est à Montréal, c'est à Trois-Rivières, à Québec, à Sherbrooke, tu sais, parce que l'équité de chacune des portes ne sera pas la même. Et là, plutôt que d'y aller en nombre de portes, je posais plus la question, ben, t'as besoin de comment de liquidité? C'est quoi que t'as besoin? C'est quoi ton coût de la vie à ta retraite? Fait que là, on faisait les calculs, tout ça, puis dire, ben, parfait, j'ai besoin, exemple, d'avoir 100 000 $ par année pour pouvoir vivre de l'immobilier à ma retraite. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait à l'inverse. On se disait, parfait. Et là, moi, je sortais mes tableaux, parce qu'on a des tableaux de modélisation à l'interne. Et là, je suis capable de dire, ben écoute, si tu veux, mettons, avoir une équité qui génère, mettons, 10 % de cash on cash, donc qui, par exemple, notre exemple de 10 millions va générer 1 million par année, ben ça te prend X nombre de portes financées de telle manière à tant de dépenses d'opération avec un taux d'intérêt de temps, puis ça, tu peux aller dans X marché. Puis là, on est derrière après ça de monter puis de dire, mais finalement, ça te prend pas 50 portes, ça t'en prend peut-être juste 40, mais ces 40-là, c'est du neuf. Donc, si tu prends du use, ça va t'en rendre 70 à cause que, justement, tu vas pouvoir aller mettre une dette qui est moins performante, donc tu vas avoir, par exemple, un service de la dette, un paiement hypothécaire qui est plus élevé, donc tu vas avoir moins de liquidité, donc le bénéfice sur ton équité va être moins liquide. Et c'est là que ça devient intéressant parce que dans la modélisation de l'équité, on est capable de vraiment réfléchir et de prendre des décisions d'investissement en fonction de si je place mon argent dans ce projet-là, ça va augmenter mon bénéfice annuel de mon portefeuille. Donc, par exemple, j'ai une équité de 10 millions, je place 2 millions dans un projet, il va me générer 20 % de retour sur l'équité globale, donc liquidité, remise en capital et gain de valeur. Mais... si je fais ça, je vais rendre la composition de mon bénéfice total de tous mes placements plus illiquide ou plus liquide. Et là, ça permet vraiment de suivre et de prendre des décisions d'investissement en conséquence. Et les gens seraient étonnés de leur calcul de retour sur équité, seraient étonnés de voir que même quand ils disent hey, mon immeuble il génère beaucoup de liquidité, ouais, mais quand tu le regardes d'un point de vue retour sur équité, il aurait été mieux. En fait, il serait mieux de vendre l'immeuble simplement d'aller s'en acheter un autre là. Donc, c'est là que ça devient pertinent.
Ouais, c'est un peu ça. Ma question que je te posais tantôt, à quel point il faut le rendre liquide, je voulais t'amener voir justement le fait que ta capitalisation, oui, c'est une épargne forcée d'un sens, mais si tu la ramènes dans tes poches, justement, tu la rends plus liquide, ben, tu peux probablement investir sur un autre projet. Fait que si t'es en phase de croissance, j'imagine que c'est plus intéressant justement de rapatrier tes billes et de pouvoir générer peut-être en te revirant un pourcentage beaucoup plus élevé que le pourcentage que ton prêt hypothécaire avec ta capitalisation. Là.
Exactement ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que le bénéfice, pas parce que ton retour sur équité est plus illiquide que liquide que c'est une problématique. Tu l'as bien dit, ça dépend de ta phase.
Exact.
T'es où dans ta phase
de croissance. De maturité, c'est ça.
Exactement. Donc, c'est sûr, quand tu bâtis un portefeuille, où est-ce que tu fais juste faire de la valeur ajoutée, donc tu achètes juste des immeubles pour créer de la valeur, d'aller mettre une dette qui est super optimale puis qui va rendre ton bénéfice super liquide, ça sera pas du jour au lendemain. Il y a un processus à faire et ça peut prendre du temps. Donc, oui, clairement, tu peux voir au départ d'un portefeuille d'investissement immobilier. On parle vraiment d'un portefeuille privé, là, pas d'un portefeuille qui va être sponsor de dizaines et de dizaines de millions. Tu peux voir parce que bon, on a des capitaux pour faire un projet. Bon, on fait ce projet-là, notre bénéfice, notre retour sur équité va être beaucoup plus liquide que liquide, mais dans le temps, on va l'amener à X pourcentage. Et ce qui est vraiment incroyable avec ça, c'est que quand tu travailles en modélisation de cette manière-là, c'est qu'après ça, on est capable. Nous, on a une charte qu'on a bâtie à l'interne. On fait juste changer les variables de cette charte-là. On a comme une base de métriques qu'on utilise. Puis avec cette base de métriques-là, on est capable de dire, bon, mais si tu mets toutes ces métriques-là, ben ça va te donner un retour sur équité globale de temps. Puis ta composition va être de temps liquide, temps illiquide, puis temps en capitalisation, puis temps en gain de valeur. Et ça, c'est... en fait, on l'a principalement développé quand on a dû faire des gros projets de construction neuf, où est-ce que là, il fallait être capable d'imaginer un bâtiment qui n'existe pas, puis que tu as juste une image 3D. Fait que tout ce que tu sais, c'est le nombre de portes, tu sais la qualité des logements, et tu as une image 3D. Donc, comment est-ce que tu bâtis, comment est-ce que tu arrives à tes valeurs locatives? Comment est-ce que tu arrives à vendre à tes investisseurs que ce projet-là va donner tant de rendement? Parce que là, tu n'as aucune certitude, tu n'as rien, tu n'as pas de coût de construction. Tu peux savoir dans le marché à peu près comment est-ce que les gens ils louent, mais c'est pas parce qu'ils louent de cette manière-là que c'est comme ça que tu fasses ton projet. Et c'est là qu'on a vraiment fait de la recherche, qu'on a appris à modéliser notre équité. On s'est bâti une base de métriques qu'on utilise. Et moi, aujourd'hui, tu me donnes un nombre de portes avec la qualité des logements qui sont dedans. Évidemment, le...
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.